VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h à Bamako. Bonjour à tous. En République démocratique du Congo, cette nuit ainsi qu'à la matinée de lundi ont été rythmés par des tirs dans la ville de Lubumbashi, d'après notre correspondant Naval Mabila. Des tirs qui visent, selon lui, à empêcher les gens de manifester contre le refus des autorités de laisser rentrer en RDC l'ancien gouverneur et candidat à la présidentielle de décembre, Moïse Katumbi. La tension restait donc perceptible ce lundi à Lubumbashi, avec des pics dans les quartiers de Tabakongo, Kalebuka et Apollo. La police congolaise a placé plusieurs checkpoints à l'entrée de la commune de Kenya avec contrôle des pièces d'identité pour accéder au centre-ville de Lubumbashi. Des opposants maliens ont annoncé dimanche la saisine de la Cour constitutionnelle pour bourrage d'urnes par le camp du chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Plusieurs candidats ont déposé leur recours en annulation à la Cour constitutionnelle. Juridiction compétente à la matière, c'est elle qui va proclamer les résultats définitifs qui seront sans appel. Soumaïla Cissé appelle à la mise en place d'un rassemblement contre la mauvaise organisation du scrutin du 29 juillet.
Ce sont des résultats manipulés. Nous ne les accepterons pas. J'en appelle à la vigilance de toutes les forces démocratiques. Je les invite à la constitution d'un large front démocratique contre la fraude et la rupture. La rupture avec le système clanique instauré il y a 5 ans que certains voudraient perpétuer.
Soumaïla Cissé, opposant malien. Crise au Soudan du Sud, le gouvernement et les rebelles ont signé hier dimanche à Khartoum un accord sur le partage du pouvoir. L'initiative vise à mettre fin à la guerre civile meurtrière qui ravage le plus jeune pays du monde. En vertu de cet accord, le chef rebelle Riek Machar va intégrer un gouvernement d'unité nationale et devenir premier vice-président. Pour parachever ce processus, les négociations vont se poursuivre jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif. Au Bénin, le peuple n'aura plus à se prononcer sur la révision technique de la Constitution comme le voulaient les députés le 5 juillet dernier. Le président Patrice Talon a décidé qu'il n'y aura pas de référendum. Il l'a dit lors du traditionnel discours à la veille de la fête de l'indépendance. Les précisions de Ginette Fleur Adandé, correspondante de VOA Afrique à Cotonou.
J'ai décidé, chers compatriotes, de ne pas organiser de référendum sur ce sujet.
Ce bout de phrase aura eu le mérite de créer la surprise au sein de l'opinion publique. Personne ne pouvait imaginer que Patrice Talon, après avoir tant cherché la révision de la Constitution, pourrait refuser de saisir l'opportunité que lui ont offert les députés en décidant que le peuple se prononce sur la révision technique de la loi fondamentale. Pour le chef de l'État, l'urgence ne saurait être l'organisation d'un référendum à quelques mois de l'organisation des législatives. Patrice Talon.
Je suis garant de la légalité républicaine. Ensuite, parce que le coût de l'organisation d'un référendum mettrait à contribution la trésorerie de l'État pour un montant incompatible avec ma volonté de consacrer nos ressources actuelles aux besoins vitaux de la population. Un référendum coûte cher et nous sommes à quelques mois des élections législatives. La réforme initiée par l'Assemblée nationale est importante, certes, mais ne constitue pas, à mes yeux, pour l'heure, un enjeu prioritaire.
Beaucoup saluent la clairvoyance du chef de l'État qui, en décidant de ranger au placard un projet qui lui est cher, montre qu'il reste attentif. David Biokou est un acteur politique.
Le chef de l'État a démontré encore une fois au peuple béninois qu'il est le président et qu'il a le souci de son peuple. Il y a un point capital, c'est l'humilité de l'homme.
Dans le camp de l'opposition, on se frotte les mains que le président de la République ait enfin compris qu'il ne servait à rien d'opérer une révision de la Constitution en urgence et dans la désunion en ayant à dos une partie de la classe politique béninoise.
L'heure n'est pas à une révision opportuniste à vive allure. L'heure est d'abord à la résolution des problèmes sociaux dans le pays. Mais la Constitution ne résout pas le problème de la pauvreté. Pour l'instant, nous disons que c'est une perte de temps même de s'occuper du fond du projet de la révision.
Ce refus d'organiser le référendum, malgré que ce soit un projet porté par les députés de la majorité présidentielle, est un appel au sacrifice pour l'intérêt supérieur de la nation, pense Karamat Fagbourou. Elle aussi acteur politique.
Il nous a donné le là. Il nous a expliqué où on va, comment on y va et quel est l'objectif à atteindre, qui est le développement de notre pays. Le président Talon a compris quel était l'intérêt, les besoins de notre pays.
Même si la route qui conduit à la réforme constitutionnelle semble parsemée d'embûches, Patrice Talon ne désespère pas pour autant.
Je suis convaincu qu'un jour, le sens de l'intérêt national et la raison finiront par l'emporter sur la politique politicienne. Ce jour-là, que j'appelle de tous mes voeux, les acteurs politiques trouveront à leur sein le consensus nécessaire pour valider une réforme dont l'utilité n'est plus à démontrer.
Rappelons que le référendum devrait porter sur l'amendement de 4 points précis, à savoir le couplage des élections, la représentativité des femmes au sein du Parlement, la création de la Cour des comptes et la constitutionnalisation de l'abolition de la peine de mort. De Cotonou, Ginette Fleur Adandi pour VOA Afrique.
Des violences agitent la région Somali, dans l'est de l'Éthiopie. Des scènes de pillage, de meutes et d'attaques à caractère ethnique ont continué à être observées hier dimanche. Les troupes gouvernementales ont été déployées. Eric Manirakiza.
Les raisons exactes de ces violences qui ont débuté samedi ne sont pas claires. L'arrivée des troupes fédérales semble avoir provoqué la colère de la population somalie, déclenchant des émeutes et violences ethniques à Djidjiga et dans d'autres villes de la région. D'après un habitant, des émeutiers vidaient les coffres des banques et mettaient le feu à des églises dans cette région à majorité musulmane. Dans la soirée, le ministère éthiopien de la Défense avait publié un communiqué stipulant qu'il prendrait les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre dans la région. Le pays est divisé en 9 régions administratives selon un système dit de fédéralisme ethnique, censé donner un degré d'autonomie aux différentes ethnies, mais accusé dans les faits d'exacerber des sentiments d'appartenance et d'ethniciser d'anciens différents fonciers. La région Somalie est la deuxième plus grande d'Éthiopie après la région Oromo, mais aussi la plus instable. En 2017, des affrontements entre membres des ethnies Oromo et Somalie avaient fait plus d'un million de déplacés.
Le président haïtien Jovenel Moïse a annoncé dimanche avoir choisi comme premier ministre Jean-Henri Séan, un auteur de 61 ans après la chute du gouvernement Lafontaine, victime de manifestations. Si Jean-Henri Séan est approuvé par le Parlement, il sera le deuxième premier ministre du président Jovenel Moïse. 6 personnes accusées d'avoir tenté d'assassiner samedi le président vénézuélien Nicolas Maduro ont été arrêtées, a annoncé dimanche le ministre de l'Intérieur, qui fait état de preuves accablantes dans cet attentat téléguidé selon Caracas par le président colombien Juan Manuel Santos. Le ministre a ajouté que les exécutants et les planificateurs de l'attaque à l'intérieur et à l'extérieur du pays ont été entièrement identifiés et que d'autres arrestations ne sont pas exclues dans les prochaines heures. Selon les autorités vénézuéliennes, l'attaque a été menée à l'aide de 2 drones chargés d'explosifs samedi à Caracas durant une parade militaire. À Bogota, le gouvernement colombien a qualifié cette accusation d'absurde.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, Donald Trump a admis dimanche que son fils avait rencontré une avocate russe pour obtenir des informations sur son opposante à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, et a qualifié cette rencontre de totalement légale dans un tweet. C'est la première fois que le président républicain évoque aussi clairement l'objet de la réunion. L'entourage de M. Trump a avancé plusieurs versions depuis que l'existence de cette réunion a été révélée dans la presse il y a un an. M. Trump a réaffirmé la semaine dernière n'avoir rien su à l'avance de cette rencontre. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a promis dimanche que les États-Unis feront respecter leurs nouvelles sanctions contre l'Iran adoptées après la décision du président Donald Trump de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien. Une première vague de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran entrera en vigueur demain mardi. La première vague de sanctions comprendra des blocages sur les transactions financières et les importations de matières premières, ainsi que des mesures pénalisantes sur les achats dans le secteur automobile et l'aviation commerciale. Elle sera suivie en novembre de mesures affectant le secteur pétrolier et gazier, ainsi que la Banque centrale. Et puis, les équipes de secours indonésiennes ont évacué aujourd'hui des centaines de touristes de petites îles touristiques proches de celle de Lombok, où des sauveteurs étaient à la recherche de survivants au lendemain d'un puissant séisme qui a fait 91 morts. Le tremblement de terre de magnitude 6.9 survenu dimanche soir à une faible profondeur de 10 km y a endommagé des milliers de bâtiments une semaine après un autre séisme qui avait tué au moins 17 personnes. Les secouristes recherchent aujourd'hui des survivants dans les décombres de maisons, mosquées et écoles détruites par le séisme de dimanche soir, ressenti aussi sur l'île voisine de Bali, la plus touristique de l'archipel d'Asie du Sud-Est. Jean-Roger Billon, prochain journal dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francisque. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Écoute ça.